إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au chapitre sur les règles de la prière en commun du livre de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala intitulé Manhaj al-Salikin. La prière en commun, elle fait partie des rites de l'islam les plus importants et elle fait partie des moyens les plus immenses de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci est légiférée à l'unanimité des musulmans. Elle fait même partie des adorations les plus méritoires. En effet, la prière est le deuxième pilier de l'islam, le plus important après les deux attestations de foi. Et pour cette prière, les musulmans se réunissent 5 fois par jour dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les mosquées, afin d'accomplir les 5 prières obligatoires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ces prières en groupe pour de nombreux intérêts et bénéfices pour les musulmans. En effet, les bénéfices de la prière en groupe sont très nombreux. À titre d'exemple, le fait que les musulmans se réunissent à la mosquée 5 fois par jour, cela permet d'engendrer la concorde et l'amour entre eux. La prière en groupe, elle permet aux musulmans de faire connaissance les uns les autres. En effet, si chacun était chez soi, il se peut que les uns ne seraient même pas au courant de la présence des autres. De ce fait, si l'un d'entre eux est dans le besoin, si l'un d'entre eux est malade, personne ne serait alors au courant et ne pourrait lui venir en aide. Tandis qu'en priant en groupe, ils se connaissent les uns les autres. S'ils remarquent l'absence d'un musulman à plusieurs prières ou durant plusieurs jours, ils pourront s'enquérir à son sujet. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est dans une difficulté et qu'il a besoin d'aide. Ceci fait donc partie des intérêts et des bénéfices de la prière en commun. Également, la prière en commun et la réunion des musulmans dans les mosquées, elle permet à l'ignorant d'apprendre ce qu'il ignore au sujet de sa prière. En effet, beaucoup de gens, ils n'apprennent les règles de la prière qu'en se rendant à la prière en commun, en observant comment ses voisins prient, en observant la prière de l'imam, ou alors en questionnant au sujet de ce qu'il ignore parmi les règles de la prière. En effet, cela lui permettra de rencontrer les musulmans et d'interroger à ce sujet. Et on voit à travers cela l'importance que l'imam et ceux qui fréquentent régulièrement la mosquée aient les connaissances nécessaires pour pouvoir servir d'exemple à autre qu'eux. Car si l'imam et les fidèles de la mosquée, ceux qui la fréquentent régulièrement, sont ignorants, alors, malheureusement, l'ignorant ne pourra pas apprendre d'eux. Il convient donc à chacun d'entre nous de faire des efforts dans l'apprentissage des règles nécessaires de notre religion et notamment ce qui a trait à la purification et la prière. Également, il y a parmi les intérêts et les bénéfices de la prière en commun le fait que tu t'habitues à t'unir avec tes frères, à te serrer en rang avec eux et à ne pas être divisé, mais également que tu t'habitues à une certaine organisation et à une certaine hiérarchie. En effet, comme on va le voir, la prière en commun, elle a des règles. Il y a un imam qui dirige cette prière, les fidèles doivent se tenir en rang derrière lui, d'une certaine manière, ils ne doivent pas le devancer, et ainsi de suite parmi les règles de la prière en commun. Tout ceci t'habitue à une certaine organisation et à respecter une certaine hiérarchie, qui est le suivi de l'imam. Et ceci est une chose importante, qui malheureusement aujourd'hui est absente chez beaucoup de personnes, qui ne respectent aucune hiérarchie et aucune organisation, et qui pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont envie comme bon leur semble. Or, notamment en ce qui concerne tes affaires religieuses, il y a des règles, il y a des choses à respecter, il y a des choses interdites que tu ne dois pas commettre, et ainsi de suite. Donc la prière en commun, elle t'habitue à cela. Et également, il y a dans cette prière, cette manifestation de ce rite immense parmi les rites de l'islam, qui, s'il est pratiqué comme il se doit, montre la force et l'union des musulmans. Mais si ce rite est délaissé, ou qu'il est négligé, alors la faiblesse des musulmans est apparente. Wallahu musta'an. Le Cheikh rahimahullah ta'ala va donc nous donner les règles essentielles liées à la prière en commun. Et comme vous le savez, ce livre, c'est un livre résumé. Il ne va pas mentionner l'ensemble des règles de manière détaillée, mais simplement les règles dont chacun d'entre nous a besoin. Il a commencé en disant « Babu salatil jama'a » والإمام chapitre au sujet de la prière en commun et de l'imam. وهي فرض عين Les salawat al-khams. Et c'est une obligation individuelle pour les cinq prières. Donc le shir rahimahullah ta'ala nous dit explicitement que cette prière, la prière en commun, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement recommandée. Mais la prière en commun est une obligation. Et une obligation comment? Il nous dit une obligation individuelle. Car les obligations, elles sont de deux sortes. Il y a des obligations individuelles et des obligations communautaires. L'obligation individuelle, c'est celle qui incombe à toute personne concernée par cette obligation, de manière individuelle. Tandis que l'obligation communautaire, c'est celle qui, si elle est accomplie par une partie suffisante de la communauté, alors les autres en sont affranchis. À l'exemple de l'appel à la prière. L'appel à la prière, ce n'est pas une obligation individuelle. Il n'est pas demandé à chaque musulman, lorsqu'entre le temps de prière, de faire l'appel à la prière, de faire l'adhan. Mais cela est une obligation communautaire. Chaque muaddin fera l'adhan, et cela est suffisant pour en affranchir les autres. Tandis que la prière en commun, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, c'est une obligation individuelle. Pourquoi? Pour les cinq prières, c'est-à-dire les cinq prières obligatoires. La question qui se pose ici est donc, est-elle légiférée pour les prières surérogatoires? Il nous dit que c'est une obligation individuelle pour les cinq prières obligatoires. Qu'en est-il alors des prières surérogatoires? Peut-on ou non les accomplir en commun? La réponse est que cela dépend des prières. Il y a certaines prières surérogatoires pour lesquelles il est légiféré de les prier en commun, et d'autres non. Celles qui sont légiférées d'être priées en commun, ce sont par exemple la prière de demande de pluie, la prière de l'éclipse, comme on l'a vu dans le cours précédent, et également la prière de nuit durant le mois de Ramadan. Celle-ci, il est légiféré de les prier en commun. Quant à celles qui sont accomplies de manière individuelle et qui ne sont pas accomplies en commun, parmi les prières surérogatoires, ce sont par exemple les rawatib, les prières surérogatoires qui sont liées à tes prières obligatoires que tu fais avant ou après celles-ci. Ces prières, tu les accomplis seul. Il n'est pas légiféré de les accomplir en commun. Il en est de même pour la prière d'ad-duha, la prière de la matinée, ou alors la prière surérogatoire après les ablutions. Et ainsi de suite, parmi les prières surérogatoires, celles-ci, elles sont accomplies seules, et non pas en commun. Quant à la prière de nuit, en dehors du mois de Ramadan, alors, il est légiféré de l'accomplir en commun, de temps à autre, et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. En effet, il est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans différents hadiths, qu'il priait la nuit et que se joignaient à lui, certains, parmi ses compagnons. Il n'y a donc pas de mal à ce que l'homme prie en commun avec sa famille la nuit de temps à autre. Le shir rahimahullah ta'ala nous dit donc que c'est une obligation individuelle pour les cinq prières. Reste à savoir pour qui elle est obligatoire. Il nous a dit une obligation individuelle, mais pour qui? Est-ce pour tous les musulmans? La réponse est qu'il nous dit « ala rijal ». C'est une obligation individuelle pour les cinq prières pour les hommes, c'est-à-dire les musulmans pubères et doués de raison qui n'ont pas d'excuses leur permettant de ne pas faire la prière en commun. On voit donc que cette obligation, elle concerne spécifiquement les hommes. Et qu'en est-il de la femme? Doit-elle, oui ou non, accomplir la prière en commun? Et si elle ne doit pas l'accomplir, peut-elle le faire? La réponse est qu'il est permis pour la femme de se rendre à la mosquée pour accomplir la prière en commun derrière l'imam. Et ce, à condition que son mari lui autorise et qu'elle s'y rende totalement couverte, non parfumée, sans s'exhiber, et qu'elle s'éloigne de toute source de tentation. Si ces conditions sont remplies, alors il lui est permis de se rendre à la mosquée pour faire la prière en commun derrière l'imam. Toutefois, sa prière dans sa demeure est meilleure, et ce à l'unanimité des musulmans, même si elle se trouve à la Mecque ou à Médine, et ce d'après la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « leurs demeures sont meilleures pour elle ». Et ce car la base pour la femme et de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ » et restez dans vos demeures, restez dans vos foyers. « وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى » et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya, des femmes d'avant l'islam. Donc la prière de la femme est meilleure dans sa demeure. Et si dans sa demeure, elle se trouve avec un groupe de femmes, alors il n'y a pas de gêne à ce que l'une d'entre elles leur dirige la prière. Et certains savants ont même considéré que ceci est la sunna, étant donné ce qui est rapporté dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Waraqa de diriger la prière aux gens de sa maison, c'est-à-dire aux femmes de sa maison. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous apporte une précision importante et il dit « Hadaran wa safaran » qu'il soit résident ou en voyage. C'est-à-dire que la prière en commun, elle est obligatoire pour les hommes, de manière individuelle, qu'ils soient résidents ou en voyage. Il n'y a donc pas de différence entre le résident ou le voyageur. Tous deux sont obligés d'accomplir leur prière en commun, à partir du moment où ils sont plusieurs, ou alors s'ils se trouvent dans une ville et qu'ils entendent l'appel à la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant ses voyages, il ne délaissait pas la prière en commun, mais il accomplissait les prières obligatoires avec ses compagnons, comme cela est rapporté dans de nombreux hadiths. Et même un jour, alors qu'ils étaient en voyage, ils ne se sont réveillés qu'après le lever du soleil. C'est-à-dire qu'ils ont manqué la prière du Fajr en son temps. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'adhan. Ils ont accompli la ratiba du Fajr, qui s'accomplit avant, qui est surérogatoire. Puis ils ont accompli la prière du Fajr en commun. Ceci nous montre l'importance de la prière en commun. Également, comme on le verra dans le chapitre suivant, la prière en commun, elle a été ordonnée même en situation de peur. Durant la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans d'accomplir la prière dans cette situation et de l'accomplir en commun. Et comme cela est connu, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des batailles avaient lieu alors qu'il était en voyage. Ceci nous prouve donc l'obligation de la prière en commun même lors des voyages. Car si elle était obligatoire en situation de peur, que dire alors que tu es en sécurité? Donc, le voyageur, s'il se trouve avec un groupe de musulmans, il leur incombe d'accomplir leur prière en groupe. Et s'il se trouve dans une ville, qu'il est dans un hôtel, ou que durant son voyage il passe quelques jours dans un endroit fixe, et que se trouve à proximité de cet endroit une mosquée, alors il se rendra dans cette mosquée pour accomplir ses cinq prières obligatoires, même s'il est voyageur, et ce, dans la mesure du possible. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith pour nous démontrer l'importance et l'obligation de la prière en commun. Il a dit qu'a maqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Laqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam." J'ai pensé à ordonner la prière, c'est-à-dire d'ordonner à quelqu'un de faire l'iqama pour la prière. "Thumma amura rajulan ya'ummu an-nas." Puis d'ordonner à un homme de diriger la prière aux gens. "Thumma antaliq برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه. Puis de me rendre avec des hommes qui porteraient des bottes de bois vers des gens qui n'assistent pas à la prière, puis de brûler leur maison par le feu. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc ce hadith, c'est une preuve explicite que celui qui délaisse la prière en commun, il est dans le péché. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé à brûler les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en commun, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de s'y rendre, mais qui la délaissent. Et il est venu dans une autre version du hadith qu'il a délaissé cela en raison de la présence des femmes et des enfants. Ceci nous montre donc la gravité du délaissement de la prière en commun. Et si une question se pose, si telle est la situation, est-ce que celui qui prie seul chez lui alors qu'il est obligé de se rendre à la mosquée, sa prière est valide? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que s'il prie seul chez lui alors qu'il lui incombe de se rendre à la mosquée, alors sa prière n'est pas valide. Ceci nous montre la gravité du délaissement de la prière en commun. Et l'avis le plus juste à ce sujet est que sa prière est valide, inshallah ta'ala, toutefois, il est dans le péché pour son délassement de la prière en commun. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala passe à certaines règles de la prière en commun et il dit: "Wa aqalluha imamun wa ma'moum." Et le minimum pour l'accomplir, pour accomplir la prière en commun, c'est un imam et un ma'moum. L'imam, c'est celui qui dirige la prière, et le ma'moum, c'est celui qui le suit dans cette prière. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc ici que le minimum pour accomplir la prière en commun, c'est deux personnes. Si deux personnes sont réunies, alors on dira qu'ils ont fait la prière en commun. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé un chapitre dans son recueil authentique, chapitre « Deux et plus sont un groupe ». C'est-à-dire qu'à partir de deux personnes ou plus, on constitue un groupe pour la prière en commun. Puis il a mentionné le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ordonné à deux de ses compagnons. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à deux personnes. Lorsque vient la prière, faites l'adhan, puis faites l'iqama, et que le plus grand d'entre vous dirige la prière à l'autre. Ce hadith est donc rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a dit en commentaire de ce hadith, ceci est la preuve que la prière en groupe est valide avec un imam et une personne qui prie avec lui, et ce à l'unanimité des musulmans. Et également, la prière, elle est considérée comme étant faite en groupe si l'homme prie avec son épouse, par exemple, ou s'il prie avec un enfant qui a atteint l'âge de discernement et de qui la prière est valide. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. Et plus ils sont nombreux, plus cela est aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous indique ici que plus il y aura du monde à la prière en commun, plus cela est aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu as le choix entre prier dans une mosquée où il y a peu de prières et dans une grande mosquée où se réunissent grand nombre de musulmans, et qu'il n'y a aucune raison faisant prévaloir le fait de se rendre dans la petite mosquée, alors la prière dans la grande sera préférable en raison du grand nombre de prières. Et ceci est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, la prière de l'homme avec un homme est plus pure que sa prière seule, et sa prière avec deux hommes est plus pure que sa prière avec un homme, et plus ils sont nombreux, plus cela est aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, il a dit rahimahullah, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 daraja, muttafaqun alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en groupe est plus méritoire que la prière d'une seule personne de 27 degrés. Ceci nous montre donc que la prière en commun, elle est plus méritoire que la prière accomplie seule, et ce de 27 degrés, c'est-à-dire qu'elle a 27 degrés de mérite supplémentaire. Et ce hadith, il nous prouve ce que l'on a mentionné précédemment, que celui qui prie seul, sa prière est valide. Toutefois, s'il lui incombait de se rendre à la mosquée, alors elle est valide, mais il est dans le péché pour son délassement de la prière en commun. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit, وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous priez dans vos campements, puis que vous venez à la mosquée où la prière est accomplie en groupe, alors priez avec eux, ce sera pour vous une prière surérogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à deux hommes qu'il avait remarqués derrière les prières lors de la prière en commun et qui ne s'étaient pas joints au groupe. Il leur a alors demandé qu'est-ce qui les avait empêchés de prier avec le groupe. Ils ont dit qu'ils avaient déjà prié dans leur campement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc ordonné que s'ils se trouvaient dans cette situation, qu'ils prient de nouveau avec le groupe, qu'ils ne restent pas comme cela derrière eux sans prier, et cela sera pour eux une prière surérogatoire. Donc, si tu te rends à la mosquée, tu as déjà prié, par exemple, tu es voyageur, tu as réuni le dhohr et le asr, puis tu arrives dans une ville au moment du asr et tu te rends à la mosquée alors qu'ils sont encore en train de prier. Dans ce cas-là, tu ne restes pas derrière les rangs sans prier. Et ce car, si une personne te voit, il pourrait avoir une mauvaise opinion de toi et se demander pourquoi tu ne pries pas avec le groupe, car tout le monde n'est pas censé savoir que tu as déjà prié. Donc tu pries avec le groupe avec l'intention que ce soit pour toi une prière surérogatoire, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une question se pose ici, si j'ai déjà prié, que je me rends à la mosquée et que je trouve le groupe en train de prier, ils ont déjà commencé la prière et je me joins à eux au cours de celle-ci. Lorsque l'imam fera les salutations finales, étant donné que c'est pour moi une prière surérogatoire, dois-je rattraper les unités que j'ai manquées? La réponse est que si tu as accompli deux unités avec l'imam, si par exemple c'était l'asr et que tu as accompli les deux dernières unités, Alors il n'y a pas de gêne à ce que tu fasses les salutations avec lui, car c'est pour toi une prière surérogatoire. Et ce hadith, il nous indique également une question importante au sujet de laquelle beaucoup de personnes s'interrogent, qui est la question de savoir si je peux prier une prière surérogatoire derrière un imam qui prie une prière obligatoire, ou inversement, est-ce que je peux prier une prière obligatoire derrière un imam qui prie une prière surérogatoire? La réponse est que cela est permis et légiféré. Ce hadith, il nous démontre que celui qui prie une prière surérogatoire peut prier derrière un imam qui lui fait une prière obligatoire. Il n'y a pas de gêne en cela. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, cela est pour vous une nafila. Il rentre donc derrière lui avec l'intention de faire une prière surérogatoire et il n'y a pas de gêne en cela. Et concernant l'inverse, il y a le hadith de Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait la prière du Isha derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il se rendait dans la mosquée de son quartier pour diriger la prière aux gens qui l'attendaient. Donc sa prière obligatoire, il l'accomplissait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'il se rendait à la mosquée de son quartier, il refaisait le Isha avec l'intention d'une prière surérogatoire. Et les gens derrière lui priaient de manière obligatoire. Il n'y a donc pas de gêne à ce que l'intention de l'imam et de celui qui est derrière lui soit différente, comme nous le démontre ce hadith. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne un autre hadith afin de nous démontrer l'obligation du suivi de l'imam et l'interdiction de le devancer. En effet, lorsque tu pries en commun, il est obligatoire pour toi de suivre l'imam, et tu n'as pas le droit de faire les mouvements de la prière en même temps que lui ou avant lui. Et le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith à ce sujet et il a dit: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا دبخ أبو هريرة كي أتخبي لا parole suivante au prophète صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به l'imam n'a été désigné que pour être suivi. S'il y a un imam dans la prière en commun, c'est pour qu'on le suive. Ce n'est pas pour que chacun prie de la manière qu'il souhaite, qu'il le devance ou qu'il prenne du retard sur lui, ainsi de suite. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرُ. Une fois qu'il fait le takbir, qu'il dit Allahu Akbar, alors faites le takbir et ne le faites pas jusqu'à ce qu'il le fasse. C'est-à-dire que lors de la prière en commun, tu dois attendre que l'imam fasse le takbir pour le faire. Si tu prononces le takbir de sacralisation, le premier takbir avant lui, alors tu ne seras pas en prière derrière lui. Quant aux autres takbir, tu dois attendre qu'il ait terminé de les prononcer, afin de les prononcer, puis de le suivre. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ. Et une fois qu'il s'incline, inclinez-vous, et ne vous inclinez pas jusqu'à ce qu'il s'incline. C'est-à-dire que tu dois attendre qu'il soit incliné pour t'incliner. Tu ne t'inclines pas en même temps que lui, et tu ne le devances pas dans l'inclination. Il dit ensuite, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Lorsqu'il dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, alors dites اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Ceci nous indique que tu attends qu'il se soit relevé de l'inclination pour te relever, et tu ne te relèves pas avant lui. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ. Et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous, et ne vous prosternez pas jusqu'à ce qu'il se prosterne. Ceci également, c'est important. Dans chacun des piliers de ta prière, tu ne dois pas devancer l'imam. Et tu ne dois pas te prosterner ou t'incliner en même temps que lui. Mais tu attends qu'il soit prosterné pour te prosterner. Tu attends qu'il soit incliné pour t'incliner. Tu attends qu'il se relève pour te relever, et ainsi de suite. Et le shir, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres savants, sont d'avis que celui qui devance l'imam en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il connaît l'interdiction de devancer l'imam, et qu'il le fait volontairement, alors sa prière est invalide, s'il nous indique la gravité du fait de devancer l'imam. Donc lorsque tu fais une prière en commun, tu dois prêter attention à cela. Ne pas t'empresser. Quoi qu'il en soit, même si tu le devances, tu ne vas pas terminer la prière avant lui. Donc, prie avec quiétude et suis-le dans ses mouvements. Une fois qu'il s'incline, tu t'inclines. Une fois qu'il se relève, tu te relèves. Une fois qu'il se prosterne, tu te prosternes, et ainsi de suite. Tu ne le devances pas et même tu ne fais pas ses mouvements en même temps que lui. Mais tu attends bien qu'il se soit incliné pour t'incliner. Tu attends bien qu'il se soit prosterné pour te prosterner. Et ainsi de suite. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne un autre hadith afin de nous indiquer qui est la personne la plus en droit de diriger la prière. Il dit وقال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله et dirige la prière aux gens, celui qui lit mieux le livre d'Allah, c'est-à-dire celui qui a le plus de science concernant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récitation. C'est lui qui est prioritaire pour diriger la prière. Ensuite, il dit فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ Et s'ils sont égaux en termes de lecture du Coran, alors le plus savant concernant la sunnah. Si deux personnes sont égales quant à leur connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa récitation, alors dirigera la prière celui qui a le plus de science concernant la sunnah, celui qui a le plus de science concernant les règles de la prière, et ainsi de suite. فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً Et s'ils sont égaux en termes de connaissance de la sunnah, alors celui qui est le plus ancien dans la hijra. C'est-à-dire que si deux personnes sont égales en termes de connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont égaux en termes de science. Lequel d'entre eux va diriger la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le plus ancien dans la hijra, celui qui a précédé dans l'émigration. Et ce hadith, il nous indique le mérite de cette adoration immense, le mérite de la hijra. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait une cause pour désigner celui qui va diriger la prière. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا أَوْ سِنًّا Et s'ils sont égaux dans la hijra, c'est-à-dire qu'ils ont émigré en même temps, alors le plus ancien en islam ou le plus grand en âge. On voit donc que la priorité est donnée tout d'abord au plus savant, puis s'ils sont égaux en science, alors à celui qui est le plus en avance dans l'accomplissement des œuvres pieuses. Et s'ils sont égaux en cela, alors on regardera le plus ancien en islam ou le plus grand en âge. Et les gens de science ont dit que lorsque les personnes sont égales dans tous ces critères, alors on choisira pour diriger la prière la plus pieuse avant de choisir la plus âgée. C'est-à-dire que le critère de piété va précéder le critère d'âge. Et qu'en est-il de l'imam, de celui qui est considéré comme fasiq, comme pervers, celui qui commet des grands péchés ou qui commet certaines innovations? La réponse est que tant qu'il est musulman et que sa prière est valide pour lui-même, alors la prière est valide pour ceux qui prient derrière lui. Car la prière est valide derrière tout musulman, qu'il soit pieux ou pervers, à partir du moment où il remplit les conditions, les piliers, les obligations de la prière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baytihi 'ala takrimatihi illa bi'idnihi. Et l'homme ne dirige pas la prière à un autre alors qu'il est sous son autorité, et il ne s'assoit pas dans sa maison sans sa permission. Rawahu Muslim. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Celle-ci nous indique qu'il y a des personnes, même si elles ne remplissent pas les critères que l'on vient de mentionner, elles sont prioritaires pour diriger la prière. Et c'est le cas de l'émir, le gouverneur, l'imam régulier de la mosquée, celui qui a été désigné pour diriger les cinq prières dans une mosquée, et le maître de maison. Ces trois personnes, ils sont prioritaires pour diriger la prière tant qu'ils remplissent les conditions pour diriger la prière. Même si derrière eux prie quelqu'un qui est plus savant qu'eux, qui a plus de science qu'eux concernant le livre d'Allah ou la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont prioritaires pour diriger la prière. C'est-à-dire que si par exemple un savant il se rend dans une mosquée et que l'imam fait partie des gens du commun, mais que c'est l'imam désigné pour diriger la prière dans cette mosquée, alors le savant n'est pas en droit de le devancer, mais il doit laisser la place à l'imam. Également, si tu te rends chez une personne qui a moins de science que toi concernant le Coran ou la Sunna, et que tu vas accomplir une prière en commun avec cette personne chez elle, alors tu n'as pas le droit de le devancer pour diriger la prière. Les gens de science ont dit, tant qu'il remplit les conditions pour diriger la prière. C'est-à-dire que si cette personne est ignorante à un point où, par exemple, elle ne connaît pas les règles de la prière, ou alors elle récite le Coran d'une manière à altérer son sens, Dans ce cas-là, elle n'est pas à même de te diriger la prière. Donc dans cette situation, qu'est-ce qui se passera? Tu lui demanderas l'autorisation de lui diriger la prière. Et ce, s'il ne le fait pas de lui-même, car c'est ce qui lui incombe dans cette situation. Il ne faut pas penser que sous prétexte que tu es chez toi, tu es obligé de diriger la prière. Non. C'est la personne qui vient chez toi qui devra te demander l'autorisation pour la diriger. Mais toi, tu n'es pas obligé. Si tu sais que cette personne qui est venue te rendre visite ou que tu accueilles a plus de science que toi et plus en droit que toi de diriger la prière, alors il te convient de la faire devancer et de lui laisser diriger la prière. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, va nous indiquer comment on doit se positionner dans cette prière. Et il dit, وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ. Et il convient que l'imam se place devant. C'est-à-dire que l'imam, lors de la prière en commun, en ce qui concerne les hommes, il se place devant les rangs, à hauteur du milieu de ceux-ci. Et en ce qui concerne les femmes, si les femmes accomplissent la prière en commun entre elles, alors celle qui dirige se place au milieu du rang, et elle ne s'avance pas. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَأَنْ يَتَرَاصَ الْمَأْمُومُونَ. Et il convient aux fidèles qui prient avec l'imam de se serrer les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent les uns des autres, en s'alignant à hauteur des chevilles et des épaules. Et ce n'est pas une condition que leurs chevilles soient collées. Mais ce qui est recherché, c'est l'alignement. Les fidèles doivent être serrés les uns contre les autres et alignés à hauteur de leurs chevilles. Car ce n'est pas avec le bout des doigts que l'on fait l'alignement. En effet, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils pensent que l'on s'aligne en alignant le bout de ses doigts. Et ceci est une erreur. Car si une personne grande se met à côté d'une personne petite et qu'ils alignent le bout de leurs doigts, alors ils ne seront pas alignés en réalité. Mais l'alignement du corps, il se fait en s'alignant à hauteur des chevilles. Et ce qui est légiféré pour ceux qui sont derrière l'imam, c'est de se rapprocher de leurs voisins de prière en direction de l'imam. Par exemple, si tu es à la droite de l'imam, alors ce qu'il t'incombe, c'est de te rapprocher de celui qui est à ta gauche. Quant à celui qui est à ta droite, c'est à lui de se rapprocher de toi. Et tu n'as pas à écarter les jambes pour toucher son pied. Tu peux lui indiquer avant le commencement de la prière de se rapprocher, mais il ne t'est pas demandé d'écarter tes jambes pour combler cet espace. Toi, ce qui t'incombe, c'est de te rapprocher à ta gauche, car tu es à droite de l'imam. Et si tu es de l'autre côté, si tu es à gauche de l'imam, tu devras te rapprocher de ton voisin de droite. C'est cela qui est demandé. Le prieur, lorsqu'il est dans le rang, et même dans sa prière lorsqu'il prie seul, ses pieds ne doivent pas être joints lorsqu'il est debout, ni trop écartés. Mais tu les tiens dans l'alignement de ton corps, sans écarter les jambes, ni trop les serrer. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَيُكْمِلُونَ الْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ. Et ils complètent les rangs l'un après l'autre. Ça également, c'est une chose importante à savoir, la manière par laquelle on doit compléter les rangs. Et certaines personnes, lorsqu'ils se rendent à la mosquée, lorsqu'il y a l'iqama, ils commencent à s'aligner à droite, par exemple. Et ça, c'est une erreur, car l'alignement, il commence derrière l'imam, à sa droite et à sa gauche, avec un nombre de prières égal à sa droite et à sa gauche dans la mesure du possible. Puis, une fois le premier rang terminé, on commencera le second, et ainsi de suite. Et on ne commence pas à faire un second ou un troisième rang alors que les rangs de devant ne sont pas terminés. Mais les rangs doivent se faire les uns après les autres, afin d'être bien complets, et que les gens soient bien alignés. La preuve concernant ces différentes questions, c'est tout d'abord le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Puis il est venu et il s'est mis à sa gauche, à la gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par la main et l'a fait passer à sa droite. Car lorsqu'il n'y a que deux prieurs, l'imam doit être à gauche et celui qui le suit dans la prière se place à sa droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donc déplacé et l'a mis à sa droite. Ensuite, une autre personne est venue et s'est mise à la gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pris tous deux par leurs mains et les a placés derrière lui. Ceci est donc la preuve que l'imam se place devant le rang. Et concernant l'alignement des rangs, la preuve est le hadith de Jabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhumah, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'alignez-vous pas vos rangs comme le font les anges auprès de leur Seigneur. Ils l'ont donc interrogé au messager d'Allah, et comment les anges s'alignent-ils auprès de leur Seigneur? Il a dit, ils complètent les rangs les uns après les autres, le premier, puis le second, et ainsi de suite. Et ils se serrent dans les rangs. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le jugement de celui qui prie seul derrière le rang. Il dit, وَمَنْ صَلَّ فَضْلًا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. Et celui qui prie seul une unité derrière le rang sans excuse, il doit refaire sa prière. La preuve à ce sujet est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier seul derrière le rang. Une fois qu'il a terminé, il lui a alors dit « Recommence ta prière car il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. » Et ce hadith a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Si tu entres à la mosquée, que tu es seul et qu'il n'y a plus de place pour t'insérer dans le dernier rang, alors dans cette situation, si tu sais qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, tu as vu par exemple d'autres gens qui étaient derrière toi et se dirigeaient vers la mosquée où tu sais qu'il y a des personnes dans la salle d'ablution. Dans ce cas-là, tu les attends et tu t'insères avec eux en prière. Et cela est dans le cas où il n'y a réellement plus de place. Mais si tu vois que les rangs devant toi n'est pas serré et qu'il y a possibilité en serrant un peu les gens à ses extrémités de te frayer une place, alors dans ce cas-là, c'est ce qu'il t'incombe si tu es seul. Et si rien de cela n'est possible, que tu ne peux pas te faire une place, qu'il n'y a personne d'autre qui arrive, que le rang est complet, alors dans ce cas-là, tu es excusé, inshallah ta'ala. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala a dit, wa qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum a dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit. Je me suis alors mis debout à sa gauche. Il m'a pris par la tête et m'a fait passer derrière lui afin de me mettre à sa droite. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. On voit donc que lorsque deux personnes prient ensemble, il est recommandé à celui qui va suivre la prière de se tenir à droite de l'imam. Et ceci est également une preuve de la permission de faire certains mouvements durant la prière, si cela est dans l'intérêt de la prière, comme on l'a mentionné dans un cours précédent. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, termine en nous mentionnant comment on atteint la prière en commun lorsque l'on est retardataire. Il dit, « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'tumu liqama, famshu ila s-salah, wa alaykum s-sakina, wal waqar. » ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Lorsque vous entendez l'iqama, marchez en direction de la prière et faites preuve de calme et de quiétude et ne vous empressez pas. Ce que vous atteignez, priez-le et ce que vous avez manqué, complétez-le. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. On voit donc que lorsque tu entends l'iqama, il n'est pas légiféré pour toi de te mettre à courir pour t'insérer dans le rang de prière. Mais tu continues de marcher calmement, avec quiétude et sérénité en direction de la prière, comme l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu sais que tu vas manquer une unité, que l'imam par exemple s'est incliné, cela n'est pas une raison pour te mettre à courir dans la mosquée. Mais tu marches avec calme et sérénité jusqu'au rang de prière, puis tu t'insères. Ce que tu as atteint, tu le pries. Et si tu as manqué quelque chose, alors tu le complètes. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَفِي التِّرْمِذِي إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامِ. Et Tirmidhi, rahimahullah, rapporte, si l'un d'entre vous se rend à la prière et que l'imam est dans une position, alors qu'il fasse comme l'imam fait. C'est-à-dire que si tu arrives alors que l'imam est incliné, tu t'inclines avec lui. Si tu arrives alors qu'il est prosterné, tu te prosternes avec lui. Si tu arrives alors qu'il est assis, tu t'assois avec lui. Tu te mets dans le rang, tu te tiens debout et tu prononces le takbir de sacralisation. Et ceci est important, c'est un pilier de la prière. Il est obligatoire pour toi d'être debout pour le prononcer. Tu te mets donc dans le rang sans t'empresser, tu prononces le takbir, puis tu rejoins l'imam dans la position dans laquelle il est. Et ce même s'il est assis ou s'il est prosterné. Et à certaines personnes, parfois, ils arrivent, ils attendent que l'imam se relève. Et ceci est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'ordonne de faire comme fait l'imam. S'il est prosterné, tu te prosternes, s'il est assis, tu t'assois. Tu n'attends pas qu'il se relève. Certaines personnes, ils se disent, j'ai manqué l'inclination, donc cette unité ne sera pas valide. Il n'y a pas de raison d'entrer tout de suite en prière, mais j'attends qu'il se relève. Mais cette prosternation que tu vas faire avec lui, même si l'unité de prière n'est pas valide, la prosternation, c'est une adoration. La position assise que tu vas faire avec lui, ou le teshahoud, les formules de rappel que tu vas prononcer, c'est une adoration que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es récompensé pour celle-ci. Donc tu ne dois pas négliger cela et tu t'insères comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. La seule situation où tu peux être excusé, c'est dans le cas où tu sais que l'imam est au dernier tashahhud. Donc que tu as manqué totalement la prière. Et que il y a avec toi d'autres personnes avec qui tu pourras faire la prière en commun. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à attendre qu'il termine, puis de faire un autre groupe afin d'accomplir cette prière en commun. Donc lorsque tu arrives à la mosquée, on a dit tu te mets dans la même position que l'imam. Et ce, après avoir fait le takbir. Si tu as atteint l'inclination, c'est-à-dire que tu t'es incliné avec l'imam, tu as atteint cette unité de prière. Mais si l'imam s'est relevé de l'inclination, alors cette unité n'est pas comptabilisée. Ta première unité sera donc l'unité suivante. Ensuite, lorsque l'imam fera les salutations, ce que tu as fait avec lui, c'est considéré pour toi comme le début de ta prière. Tu vas donc te relever après qu'il ait terminé les salutations pour compléter ce que tu as manqué. Donc si par exemple tu es arrivé à la deuxième unité de la prière du Maghreb, tu auras donc fait deux unités avec l'imam. Il t'en manquera une, tu vas te relever, puis faire une unité à voix basse, puis la terminer jusqu'aux salutations finales. Et si tu es arrivé par exemple à la dernière unité de la prière de l'Aïcha, que tu t'es inséré avec l'imam avant l'inclination, alors dans ce cas-là, il te restera à compléter trois unités. Donc une fois que l'imam aura fait les deux salutations, tu vas te relever. Et ceci sera pour toi ta deuxième unité. Il est donc légiféré pour toi, dans cette situation, étant donné que c'est la prière de l'Aïcha, de réciter à voix haute dans cette unité. Et lorsque je dis à voix haute, cela ne veut pas dire à voix très élevée. Mais tu ne récites pas trop fort afin de ne pas déranger les autres fidèles qui sont en train d'accomplir leur adhkar. Ceci est donc ta deuxième unité. Tu l'as fait et après celle-ci, tu t'assois pour le tashahhud qui sera pour toi le premier tashahhud. Puis ensuite, tu te relèves et termines les deux autres unités de la même manière que tu le fais dans tes autres prières. Ceci est donc l'avis le plus juste parmi les avis de gens de science, que ce que tu as atteint avec l'imam est le début de ta prière et ce que tu complètes est la fin de ta prière. On a donc terminé concernant les questions liées aux règles de la prière en commun, et on verra demain le chapitre suivant au sujet de la prière des gens qui ont des excuses, c'est-à-dire la prière du malade, la prière du voyageur et la prière de la peur. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.